Radio Cynique, Éric Deterre, bonjour. Si l'adaptation est une trahison, alors les textes de théâtre, nombreux à s'inspirer d'ouvrages déjà écrits, voire de plus en plus de films ou de scénarios déjà tournés, sont autant de trahisons. Oh, sûrement pas bien grave. Mais plutôt que de partir de ce postulat, ici à Radio Cynique, on a préféré partir du principe que les adaptateurs cultivaient une forme de pas de côté, loin des respects figés pour le ou les textes qu'ils mettent en scène et portent sur scène. Elle et lui, ils ont choisi Virginie Despentes et deux des trois volumes de son Vernon Subutex. Ça donne un spectacle vitaminé où la langue de la poétesse de la marge est sublimée par un Vernon lumineux et une belle troupe de comédiennes et de comédiens. C'est Clémentine Neufdanski, et Elia Birman, comédien et comédienne et initiateur du Vernon Subutex montré actuellement au Théâtre de Belleville, que nous recevons en première partie de cette émission. Quant à eux, ce n'est pas un ou deux tomes d'un auteur qu'ils ont choisi, mais la totalité de l'œuvre d'un des plus fameux auteurs de théâtre. Leur spectacle s'appelle Molière, avec un point entre chaque lettre du pseudonyme de Jean-Baptiste Poquelin. On verra pourquoi. Étienne Luneau et Clément Beauvoir viennent nous présenter leur spectacle plein d'énergie et de fantaisie, et c'est dans la superbe salle à l'italienne du Théâtre du Ranelagh. Voilà qui fait une excellente transition avec vous, Pascal Duterte, puisque vous continuez votre histoire du théâtre avec une petite leçon d'architecture.
Oui, Eric. Et c'est justement de salle à l'italienne dont je vais vous parler en faisant le génie de...
Alors, je vais vous demander de vous rapprocher un tout petit peu du micro,
avec
voilà.
Alors, vos invités de la deuxième partie de ce Radio Scénique, puisque je parlerai de la salle dans laquelle Molière se produisait.
Quel talent de la transition. Pascal, c'est en fin d'émission que nous vous retrouverons. Vous aimez le théâtre, nous aussi. Vous avez le menu, alors éteignez vos portables et restez avec nous. Voici Radio Scénique, 20e édition.
Radio Scénique par Éric Deterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Radio Scénique qui décide de s'intéresser aujourd'hui à l'adaptation de la littérature sur scène et en l'occurrence Vernon Subutex de Virginie Despentes, c'est actuellement au Théâtre de Belleville. On en écoute un extrait.
Souviens-toi, Vernon, on entrait dans le rock comme on entre dans une cathédrale et c'était un vaisseau spatial, cette histoire. Et tu dors, Vernon? Tu m'écoutes pas, là, tu dors? Vas-y, mais réveille-toi, t'as 3 grammes dans le nez, là. Comment tu peux dormir? Garde ça! C'est mon testament, mec. Tu comprends? Je te laisse à toi. Je te fais tellement confiance.
Alex Bleach est mort.
Monsieur, vous êtes dans l'obligation de quitter les lieux immédiatement.
Ah, attendez, attendez.
Vous m'en donneriez une de cigarette? Je me suis fait expulser de chez moi ce matin, j'ai eu 5 minutes pour rassembler mes affaires et partir et j'ai oublié de prendre mes clopes.
Je l'ai eu 10 jours non-stop sur le dos. Cette fille, elle parle dès qu'elle ouvre un œil. Elle aspire l'air.
Mademoiselle, vous savez qui s'est perché? Non, vous n'avez aucune idée de qui est cet individu. De qui est Vernon Subutex?
Il y a peu d'endroits où l'on puisse s'asseoir aux choses sans rien payer. Restent les gares, le métro, les bibliothèques et les églises.
Et on l'identifie tout de suite comme un gars sans maison.
Ça lui a pris 3 jours avant de se résoudre à s'asseoir et tendre la main.
Je me sens ni triste, ni désespéré. C'est une autre humeur que je ne connais pas. Un bruit blanc.
Ça fait pas longtemps que t'es à la rue, toi.
C'est momentané.
Ça y est toujours. Moi, ça fait 19 ans que c'est momentané.
Clémentine Neufdanski, bonjour.
Bonjour.
Elia Birman, bonjour. Vous êtes tous les deux à l'initiative de ce spectacle, hein, Vernon Subutex, dont vous signez également la mise en scène et vous êtes aussi dans la distribution. On vient d'en entendre un extrait. Dans une adaptation, comment est-ce qu'on évite la trahison? Qu'est-ce qu'il veut répondre, Clémentine Neufdanski?
Je ne parlerai pas de trahison, c'est plutôt un
regard...
Comment
on l'évite, justement?
Oui. C'est plutôt un regard que nous, on porte sur l'œuvre. Et nous, on a choisi de se pencher sur la trajectoire de Vernon, surtout.
Alors, Vernon, un disquaire de 45 ans, nostalgique, qui a la nostalgie des vinyles, la nostalgie d'une époque où il avait encore un domicile, parce qu'il va se faire mettre à la porte par une huissière un peu
sèche.
Un peu sèche, hein, parce qu'il n'a pas payé, en fait, il a pas payé son loyer pendant un mois, et puis il a perdu son soutien, hein, Alex Blitch.
C'est ça, et c'est un regard sur un monde qui est assez lumineux, une époque assez lumineuse avec le rock, avec...
On parle des années 80.
Des hein. années 80, exactement. Et cette époque-là, elle est belle. Et effectivement, il y a, comme on peut le sentir aujourd'hui, deux mondes qui s'entrechoquent. Le monde d'avant, on va dire, années 80, et le monde d'aujourd'hui avec des difficultés financières. Et bizarrement, l'écriture des pentes et l'histoire qu'on raconte, c'est ce choc entre deux mondes et ce choc... il est à la fois dur et lumineux comme son écriture.
Alors, le thème principal qui réunit les deux spectacles du jour, adapter, c'est trahir. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait un travail d'adaptation là, Étienne Luneau, vous n'avez pas plus particulièrement travaillé sur cette adaptation, hein.
Oui, on a essayé. Nous, c'est un travail d'écriture à partir d'une matière, je dirais plutôt. Mais c'est sûr qu'il est important dans ce spectacle de garder l'humeur des textes de Molière, en tout cas de l'humeur qu'on a l'impression d'avoir nous découverte dans les textes de Molière. Donc, c'est avant d'être une réécriture, c'est une lecture de ce que peut être cette œuvre et ensuite de donner une impression de comment nous on la perçoit. Et en essayant de rester fidèle à la lecture qu'on en a eue, en tout cas.
Ça fait quasiment 2 ou 3 ans que ce spectacle tourne.
Oui, ça fait 3 saisons.
Ça fait 3 saisons. Qu'est-ce qui fait que ça marche, hein ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes reprogrammé, qu'il y a toujours plus de spectateurs ? C'est un mélange entre un aspect didactique et un aspect de distraction, Clément Beauvoir ?
C'est peut-être Molière, je ne sais pas. Sans doute, puisque c'est à peu près les choses que réussissent à nous dire les gens qui viennent voir le spectacle. C'est très difficile de pouvoir dire ce spectacle continue à fonctionner parce que c'est vraiment compliqué. Par contre, oui, à force de discuter avec les gens qui sont venus voir, on entend en effet que on donne envie, l'énergie, non seulement celle de Molière qu'on réussit à transmettre, parce que c'est important quand même. Molière est au centre de tout ça. Vous parlez d'adaptation, mais c'est vrai qu'on a essayé de rester le plus possible en train de se dire, et tous les soirs d'ailleurs, avant de monter sur scène, on se dit, on raconte la vie de Molière ce soir. C'est Molière qui est au centre. Il y a Molière d'abord, et puis peut-être oui, en effet, que notre énergie, le fait qu'on soit obligé de jouer très fort les uns avec les autres, très proches, etc., communique un peu cette énergie aux gens, et peut-être que c'est ce qui fait que le spectacle fonctionne.
Alors, vous avez utilisé, je ne vais pas dire la même méthode, mais le même clin d'œil pour Shakespeare et Tchekhov. Alors, Tchekhov, c'est...
Tchekhov, c'est tout simplement, comme chacun sait, traversée charmante avec haltes exploratoires de la kyrielle d'humeur d'une œuvre vécue.
Et Shakespeare ?
Et Shakespeare, c'est la somme hétéroclite d'aspects kaléidoscopiques espérant synthétiser partiellement l'ensemble des accomplissements remarquables de l'éponyme.
Là aussi, c'est une forme de système très, très rapidement.
C'est toujours la même idée, c'est de raconter la vie des auteurs grâce à leurs œuvres.
Eh bien, on peut dire que ces 3 spectacles sont actuellement programmés au Ranelagh. Étienne Luneau, Clément Beauvoir, merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Est-ce moi qui suis misanthrope ou les autres qui sont misanthropes? Si j'étais un peu plus salope, je pousserais tous ceux de mon espèce à l'eau. Allô, allô, les chauffards énervés qui collent au cul. Allô, allô, les tout mous qui conduisent comme des tortues. Allô, allô, les piétons qui pilent au milieu de la rue. Allô, le salaud, quand je m'arrête dans la rue qui me fonce dessus. Est-ce moi qui suis misanthrope ou les autres qui sont misanthropes? Si j'étais un peu plus salope, je pousserais tous ceux de mon espèce à l'eau. Allô, 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 les clients pas foutus d'avoir la pointe. Allô, allô, les vendeurs qui ont pas la monnaie sur 20. Allô, allô, le voisin noctambule qui me rend dingue. Allô, le salaud qui vient se plaindre quand je fais la bringue. Allô, ceux qui me donnent des conseils quand j'ai rien demandé. Allô, aussi ceux qui se braquent quand on veut les aider. Pas bien, pas bien, les gens qui veulent toujours avoir raison. Et encore moins ceux qui me donnent tort, ça c'est hors de question. Est-ce moi qui veux l'impossible ou les autres qui font l'impossible? Mon optimisme submersible prend l'eau de toutes parts. À qui dois-je dire merci? Merci, merci à vous tous qui me sortez par les yeux. Merci aussi à moi-même qui ne vous sert.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1 et c'est Radio Scénique et je regarde la pendule. Mais ne serait-ce pas l'heure de la chronique de Pascal ? Pascal, nous avons déjà évoqué la Commedia dell'arte et aujourd'hui on se pose la question de ce théâtre dit à l'italienne. Mais auparavant, puisque nous avons parlé de Molière hein, tout à l'heure, savez-vous dans quel genre de salle se produisait sa troupe?
Nos fidèles auditeurs se souviendront peut-être que nous avons consacré une chronique à la Comédie française, société qui a été créée par Louis XIV en réunissant deux troupes rivales, celle de l'hôtel de Bourgogne et celle de Molière après sa mort. Je me contenterai de rappeler que celui-ci, à ses débuts, avant son départ pour la province, a joué avec sa troupe nommée l'Illustre Théâtre dans deux salles parisiennes, initialement dédiées au jeu de paume, celle des Métayers rive gauche et celle de la Croix Noire rive droite. Lorsque Molière revient à Paris 12 ans plus tard, il est hébergé au Petit Bourbon, une ex-chapelle transformée en salle des fêtes. C'était une salle rectangulaire avec la scène située à l'une des extrémités et des gradins le long des grands côtés. On pourrait appeler cela une salle à la française.
Bon, voilà qui nous permet de glisser vers le thème du jour. Comment passe-t-on d'une salle à la française à une salle à l'italienne?
Eh bien, justement, en suivant les tribulations de notre ami Molière, qui se voit chassé du Petit Bourbon, mais heureusement sauvé par son ami le roi. Celui-ci met à sa disposition une salle située au Palais Cardinal, ancienne demeure de Richelieu, qui était devenu le Palais Royal dès 1643. Ce petit théâtre abandonné depuis 20 ans nécessite de gros travaux. Molière récupère les loges du Petit Bourbon, alors en démolition, et fait remodeler la salle de Richelieu, qui est encore à la française, mais commence à s'arrondir à son extrémité opposée à la Seine, se rapprochant du schéma à l'italienne. Nous sommes en 1661, mais il faut préciser que l'arrondi en bout de salle était déjà apparu dans l'hôtel de Bourgogne 14 ans plus tôt.
Mais cela veut dire que la salle à la française est carrée et que l'italienne est ronde. C'est si simple que ça?
Presque. Prenons l'exemple de la nouvelle salle du Marais, reconstruite après un incendie en 1644 rue Vieille du Temple à Paris. Le plan est toujours celui du jeu de paume, un rectangle allongé. La scène est constituée d'une première estrade à 2 mètres du sol, puis d'une deuxième encore plus haute. La salle est sur 3 niveaux de loges au-dessus du parterre, à l'époque vide de sièges. Sur le petit côté opposé à la scène, des gradins sont montés sur le plancher du premier étage, constituant un petit amphithéâtre. Voici ce que l'on peut appeler une salle à la française. On comprend tout de suite où se situe le problème. Pour assister de face au spectacle, il faut être soit debout dans le parterre, soit assis tout au fond sur les gradins. Et sur les grands côtés, on a le choix entre regarder les spectateurs d'en face, soit attraper un torticolis. D'où la solution d'arrondir le bout du théâtre pour améliorer le champ de vision au fond de la salle.
Mais le théâtre à l'italienne, est-ce qu'il résout ce problème de torticolis?
Eh bien, souvenez-vous du théâtre grec à ses débuts. Il y a une scène au milieu et autour, le public s'organise. C'est le principe des attractions de rue, car le cercle est la configuration la plus rationnelle pour mettre tout le monde à égale distance. Mais lorsque le théâtre s'équipe d'un cadre de scène, d'un plateau, de décors puis de coulisses, alors il faut se placer en face pour bien voir. Rappelez-vous du théâtre de Vicence de 1585. Dans le théâtre de Palladio, les gradins s'organisent en demi-cercle, comme dans l'amphithéâtre antique qui reste la grande référence. Pour accueillir le plus de monde possible, il faut donc garder cette idée du cercle, mais le décaler par rapport à la scène qui, elle, se développe en profondeur et en hauteur avec les coulisses et les cintres. D'ailleurs, il ne s'agit plus vraiment de cercle, mais d'une ellipse ou d'une forme en fer à cheval, ce qui permet d'accroître encore la capacité des salles. Donc, d'un côté, il y a un rectangle qui s'arrondit et de l'autre, un cercle qui s'allonge.
Alors, cette forme ovoïde que l'on connaît bien, c'est efficace en termes de visibilité ?
C'est très bien si on est dans un fauteuil d'orchestre ou bien au premier rang du premier balcon en face. En revanche, dans les fonds de loge, sur les côtés, vous ne verrez pas grand-chose du spectacle. Tout le monde a pu en faire l'expérience. On a parfois l'impression que la scène étant mise de côté, la pièce qu'on y joue est elle-même accessoire et que le spectacle est plutôt dans la salle. Toute une littérature s'est développée autour des soirées mondaines dont le théâtre est l'archétype de la représentation sociale. On reçoit dans sa loge et pourvu qu'elle soit assez profonde, on peut même s'y livrer à toutes sortes d'activités, y compris faire un petit somme entre deux entr'actes.
Alors en fin de compte, pour vous, Pascal, en tant qu'architecte, quelle serait la salle idéale ?
Eh bien, une salle dans laquelle tout le monde voit bien. Évidemment, c'est-à-dire un amphithéâtre légèrement courbé, dégradé en pente, une grande ouverture de scène et un plateau peu profond. La salle à l'italienne va quand même s'imposer à partir du XVIIIe siècle et devenir le modèle du théâtre bourgeois et des opéras du XIXe siècle. Il y a toutefois des exceptions, comme le théâtre de Wagner pour ses œuvres jouées à Bayreuth. Ici, la salle est carrée avec un amphithéâtre frontal en bas et des loges au fond sur trois niveaux. De nos jours, on ne construit plus de salle à l'italienne.
Voici terminée la 20e édition de Radio Scénique, le magazine de la création scénique à l'antenne d'Allegre FM 93.1. Merci à nos invités en studio, Clémentine Newvdansky et Elia Birman, qui sont à l'initiative du très rock et enthousiasmant Vernon Subutex, présenté encore quelques jours au Théâtre de Belleville. Mais il va y avoir des dates de tournée, je crois.
On a une date...
Clémentine Newvdansky.
Oui, on a une date à Torigny-sur-Marne le 7 février 2026.
Et d'autres dates encore à venir. Allez-y, vous ne regretterez pas ce mélange savant de poésie de la marge, de nostalgie du vinyle et d'humanité débordante. Merci également à Étienne Luneau et Clément Beauvoir qui, au lieu de nous faire dire « encore Molière », nous font clamer « Molière ». Encore. Leur spectacle qui s'appelle Molière, ou plus exactement Méli-Mélo, oratoire librement inspiré d'errance dans le répertoire de l'éponyme, ouf, est actuellement au théâtre du Ranelagh. L'équipe de Radio Scénic, c'est Pascal Dutertre à la chronique et Pierre Demkoff, assistant et programmateur musical de l'émission. Un grand merci à eux. Et un merci immense à Enrico Mastro Giovanni qui, malgré une panne de courant juste avant l'émission, a réussi à organiser ce direct de façon brillantissime. Enrico, merci. Le 10 novembre, date de la prochaine émission, nous rediffuserons une édition passée de Radio Scénique et nous nous retrouverons pour une nouvelle émission le 24 novembre. Nous parlerons de politique sur scène. Il est 10h55 sur Allegre FM 93.1. Après la vibration de la scène, voici le vrombissement de la caméra. Il est temps pour nous de retrouver à 11h. Vive le cinéma. Aujourd'hui, notre confrère Bernard Payan reçoit la cinéaste Dominique Cabrera autour de son film Le cinquième plan de lâcheté. C'est apparemment une enquête mêlant réalité et fiction à partir du film La jetée de Chris Marker.